Il y a un peu plus d'un an, le 18 mai 1979, au cours de votre discours de circonstance célébrant le jour du drapeau et de l'université, vous aviez eu à dire que la presse serait toujours bien accueillie au département de l'éducation nationale à la fin de l'exercice pour un bilan de cette fameuse réforme de l'éducation nationale, bilan qu'il serait peut-être à la fin de l'année académique 79-80, tant de faire avec vous. Où en sont les choses, monsieur le ministre Bernard?
Et mon cher Jean, je suis très heureux que vous ayez pensé à passer, prendre contact avec le ministre de l'Éducation nationale, à l'Institut pédagogique national, pour envisager avec lui une étude du bilan de ce programme de réforme de l'éducation nationale. Bilan, certes, très maigre, si vous voulez, parce que s'étendant seulement sur une année. J'ai eu effectivement à dire, à l'occasion de mon discours, de mon premier discours pour les fêtes du drapeau et de l'université, que la presse, tant parlée et écrite, serait invitée à se présenter dans les salles de classe, serait invitée à venir prendre contact avec les responsables de l'éducation nationale, avec le ministre de l'éducation nationale, pour avoir le maximum d'informations possibles sur ce programme de réforme de notre système d'enseignement. C'est pourquoi, avec beaucoup de plaisir, je réponds ce matin à votre question. Au cours de cette année académique 79-80, je ne peux pas dire qu'on a eu une année d'expérimentation de ce projet de réforme. Ça a été plutôt une année de pré-expérimentation. Et cette année de pré-expérimentation, nous avons travaillé avec 100 salles de classe, avec 50 élèves par classe. Et ces 100 salles de classe, nous les retrouvons un peu partout à travers le pays, à Port-au-Prince, à Saint-Marc, dans les communautés rurales de Saint-Marc, au Cap-Haïtien, dans les communautés rurales avoisinantes du Cap-Haïtien. En d'autres termes, le champ est varié, ce qui nous permet d'avoir... Bon. Et maintenant, on a commencé à recueillir les rapports des différents secteurs dans lesquels s'est déroulée l'expérience, cette pré-expérience. Et personnellement, vers mi-juin par là, je me suis fait le devoir d'aller dans les écoles, de voir les enseignants au travail, de suivre la réaction des enfants. La réaction des enfants qui, contrairement aux années précédentes, reçoivent une information, une formation en créole et en français à la fois, alors que ça se faisait uniquement dans le passé en français. Alors il faut voir la vie qui se reflète dans les yeux, dans les regards de ces enfants, parce que enfin, ils comprennent ce qu'on leur donne. Ils saisissent bien vite ce qu'on essaie de faire passer. Alors, je vous dis que je ne peux pas affirmer que j'ai été 100% satisfait des résultats, mais je crois quand même que les résultats promettent. que l'expérience est très prometteuse et qu'on a intérêt à aller de l'avant.
Vous dites que vous n'êtes pas satisfait à 100%. C'est toujours l'histoire du verre à demi-vide ou à demi-plein, selon l'optimisme ou le pessimisme. Mais dans ce cas précis, il faudrait peut-être adopter l'attitude pessimiste pour pouvoir, comme on dit, débroussailler le terrain. Qu'est-ce qui, selon vous, a cloché pendant cette année au niveau expérimental?
D'abord, il faudrait que je souligne pour vous que le personnel chargé de l'expérimentation n'était pas très, très bien préparé. Parce que nous avons dû aller vite avec la formation de ce personnel. Et ensuite, des moyens financiers ont fait que le matériel pédagogique est arrivé en retard au niveau de certaines écoles. Et les difficultés de communication ont fait également que ce matériel est arrivé encore avec beaucoup plus de retard dans certaines autres écoles. Donc, les instituteurs, au départ, ont essayé de travailler en fonction de la formation théorique qu'ils avaient reçue ici, sans avoir en main, sans avoir à leur portée le matériel pédagogique qu'on leur avait promis à la fin de la formation. Ce matériel est arrivé avec du retard. Et c'est ça qui explique que les résultats ne sont pas à 100% satisfaisants, parce que les instituteurs ont commencé à travailler valablement à partir du moment où ils ont eu le matériel pédagogique à leur disposition.
Reprenons les choses un petit peu. Vous avez dit 5000 élèves, 100 salles de classe, réparties principalement dans la région de Port-au-Prince, de Saint-Marc-Ville, Saint-Marc-Arrière-Pays, Cap-Haïtien-Ville et Cap-Haïtien-Arrière-Pays. Mais ce sont des salles de classe du secteur public ou du secteur privé ou des deux?
Il y a des deux, mais le suivi pédagogique a été beaucoup plus important, beaucoup plus intense au niveau des écoles publiques qu'au niveau des écoles privées. Parce que là, il faut être honnête, les écoles privées qui ont conduit l'expérience l'ont conduite parce qu'elles ont voulu. Les responsables de cette école se sont offerts normalement, sans aucune pression de la part du département, pour participer à cette pré-expérimentation et nous l'avons accepté. J'ai dit que le suivi a été en somme un peu plus lâche au niveau de ces écoles parce que les encadreurs que nous avons ne sont pas encore suffisants pour couvrir de façon valable et plus que ces 7000 élèves que nous avons dans différentes salles de classe. Mais quand même, les écoles privées qui ont mené l'expérience ont reçu, ont bénéficié, elles aussi, d'un certain suivi, mais dans des proportions moindres que nos écoles publiques. Et je dois même pouvoir, M. Dominique, vous dire que je remercie bien sincèrement les responsables de ces écoles privées parce que, comme je vous dis, ils n'ont pas été invités.
C'est une coopération volontaire.
C'est une coopération volontaire parce que ces gens ont compris l'importance, la nécessité de cette réforme.
Revenons maintenant, vous avez parlé de la préparation subie par ces instituteurs à qui est confié le soin de cette pré-expérimentation. Préparation effectuée avant l'année dernière. Comment s'est déroulée cette préparation? Dans quelles conditions? À qui s'adressait cette préparation, ce recyclage, et comment ont réagi ces instituteurs à l'époque?
Et vous savez que dans le cadre du projet de construction de locaux scolaires, gouvernement haïtien, Banque mondiale, il y a un certain nombre d'écoles qui ont été construites. Et dans ces écoles, on a placé des enseignants, en général, qui sont des diplômés de nos écoles normales. Et c'est à ce groupe d'enseignants qu'on a demandé de s'occuper, justement, de cette pré-expérimentation. Mais nous avons pu nous rendre compte que la formation qu'ils avaient reçue à l'école normale ne suffisait pas pour faire d'eux de bons instituteurs pour expérimenter valablement ce programme, parce que à l'école normale, ils avaient reçu la même formation routinière de l'enseignement traditionnel. Mais comme ils ont un terrain plus ou moins bien préparé, il a été facile pour nous, avec la collaboration des techniciens de l'Institut pédagogique national, pendant les vacances d'été, de les avoir ici en séminaire de formation. Il y en a qui sont restés ici 6 semaines, qui sont retournés dans leur école respective, et dans ces écoles-là, ils sont suivis encore par les responsables régionaux placés à Saint-Marc, placés au Cap-Haïtien, et par ceux qui sont chargés de cette mission-là au niveau de province.
Très bien. Deuxième question. Vous avez parlé de ces instituteurs qui, dans le cadre du projet de construction d'écoles Banque mondiale gouvernement haïtien, sont chargés de ces nouvelles écoles. Mais nous savons, le public l'a appris l'an dernier, que vous avez eu un gros problème. Vous demandiez à un certain nombre d'instituteurs un travail supplémentaire, en définitive une sorte de surcharge de travail, et vous vous trouviez devant une pénurie de fonds pour les rétribuer. Comment avez-vous pu résoudre ce problème, monsieur le ministre? Problème capital.
D'abord, je dois vous dire que, à mon arrivée au ministère de l'Éducation nationale, l'un des premiers problèmes que j'ai eu à discuter avec le président de la République a été le problème de rémunération des enseignants, que ce soit du primaire ou du secondaire, mais en insistant davantage sur le salaire des enseignants du primaire. Parce que, en somme, pour moi, professeur du secondaire, il a 2, il a 3, parfois jusqu'à 4 chaires, il arrive à tirer plus ou moins son épingle du jeu. Tandis que l'instituteur de l'école primaire n'a que son petit chèque d'instituteur d'école primaire pour vivre. Donc il faut penser quand même à améliorer sa situation financière. C'est ainsi qu'à mon arrivée au département, ces instituteurs avaient comme salaire 60-70 dollars au grand maximum. Et le président de la République a très bien compris mes informations, mes explications, et tout de suite, il a donné l'ordre que l'on accorde dès la rentrée d'octobre 100 dollars à tous les enseignants du primaire. Et il a également donné des instructions pour qu'on accorde des primes aux instituteurs chargés justement de la pré-expérimentation dans les écoles. C'est ainsi que les instituteurs de ces écoles reçoivent comme tous les autres instituteurs 100 dollars de salaire, mais qu'en plus de cela, en fonction de l'éloignement de l'école dans laquelle ils travaillent, ils reçoivent quelque chose en plus. Et au niveau de ces écoles du projet, tous ces enseignants sont logés. Donc, c'est ainsi qu'au fur et à mesure, on essaye d'envisager la situation sociale, la situation financière du corps enseignant.
Revenons à présent à cette expérimentation. Nous avons envisagé quelques-unes de ses limites cette année avec la question du matériel pédagogique, arrivé en retard ou préparé avec un certain décalage de temps. Quels sont selon vous les autres handicaps qu'ont connus les expérimentateurs et les instituteurs au niveau de cette première année de pré-expérimentation?
Alors, les handicaps, voyez-vous, sont peut-être d'ordre divers. Premièrement, ces instituteurs, c'est la première fois qu'on demande à ces instituteurs de faire un travail technique, un travail ordonné, un travail organisé. Ce sont des gens qui ont eu l'habitude d'entrer dans leur salle de classe, de faire ce qu'ils veulent, parce que c'est triste à dire, mais c'est la vérité.
C'était la routine.
C'est la routine. Non seulement ça, mais on peut dire que le programme de l'enseignement primaire n'existait pas, puisque chaque directeur d'école avait son petit programme dans son école. C'est pas le il y a eu en son une refonte du programme de l'enseignement primaire en 1972. Mais quand je me présente parfois dans certaines écoles, que je demande au directeur de ces écoles-là de me parler de ce programme de 1972, je l'ignore, monsieur le ministre. Je n'ai jamais reçu copie de ce programme. Donc, ces gens-là ont toujours travaillé dans l'anarchie sans aucune discipline. Quand on demande maintenant à des gens qui ont toujours travaillé comme ils l'entendaient, de travailler en fonction d'une discipline donnée, en fonction d'une philosophie bien déterminée, vous comprenez que la première réaction, c'est pas favorable.
Absolument.
Et ensuite, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, du point de vue formation, il n'avait pas ce qu'il fallait. Donc c'est au fur et à mesure. Du point de vue motivation, et c'est ça le côté grave au départ, c'était que les instituteurs préposés justement à cette pré-expérimentation étaient parmi les premières personnes à critiquer la réforme. Parce qu'ils ne comprenaient pas que l'on puisse venir avec le créole comme langue
d'enseignement.
Mais heureusement, après pas mal de réunions organisées pour eux, dans leurs écoles, au siège des districts, au siège des départements, et des communications par la radio, et dans ce sens-là, il faut dire aussi l'appui que nous avons eu de Radio Haïti Inter et de Radio Métropole dans ce sens, les instituteurs ont bien vite compris que, en somme, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui avait raison en essayant d'introduire ce projet de réforme.
Mais à ce sujet, monsieur le ministre, il faut peut-être vous signaler que nous n'avons pas gagné la bataille. Il y a encore beaucoup de réticences dans le milieu, il y a encore le poids de tradition, et en général, les gens, je vais vous dire, monsieur le ministre, quelque chose qui m'a un petit peu choqué et qui m'a fait plaisir. Figurez-vous que j'ai des admirateurs et des admiratrices qui souvent me disent « bravo pour telle émission, bravo pour telle autre ». Je rentre un jour dans un bureau public et il y avait une dame derrière son bureau qui m'accueille comme elle n'avait pas l'habitude de m'accueillir. Souvent, plus souvent, c'était le sourire, elle me faisait des compliments pour tel ou tel programme. Le visage était renfrogné ce jour-là, c'était après un débat organisé justement sur la réforme. Et elle me dit « en créole, Dominique Monchembada quoi, ou son vagabond ». Je me dis « oh, madame, qu'est-ce qui se passe ?» Elle me dit, ah non, Madakouakou, comment on est de culture concours, et puis on va proposer peuple à créole. Et c'est ainsi qu'elle m'a vraiment prise à partie en me reprochant de me mettre du côté de ceux qui voulaient, etc., etc., etc. Et cela a été très significatif parce qu'elle a repris tous les arguments traditionnels. Elle envoie ses enfants à l'école, c'est pour qu'on leur apprenne le bon français. Elle envoie ses enfants à l'école, ce n'est pas pour rester dans la crasse du créole, enfin, tous ces arguments que nous avons déjà entendus, mais qui étaient très significatifs à l'époque d'une certaine irritation d'un secteur de l'opinion publique contre la réforme. Il a fallu beaucoup d'explications pour faire comprendre la différence entre la langue d'enseignement et la langue française qui serait, elle, utilisée progressivement à l'avenir. Et je crois qu'il y a encore de ces résistances du milieu. Est-ce que vous les percevez, monsieur le ministre ?
Ça, je ne me fais pas du tout d'illusions. Je connais ces résistances. Il n'y a pas longtemps, Radio Nationale a eu une émission dans ce sens. Le journal Nouveau Monde avait repris aussi le thème. Et je sais que cette résistance peut avoir la vie longue encore. Mais quand même, je reste confiant. Je reste confiant parce que dans certains secteurs, au départ, tout à fait opposés à cette réforme de l'éducation, on commence à comprendre. Parce que, en somme, je crois que assez souvent, les gens ont pris l'habitude de s'opposer à quelque chose pour, en somme, le plaisir de s'opposer à quelque chose, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils s'opposent à quelque chose. C'est pourquoi je crois même vous l'avoir déjà dit une fois. Quand un secteur du public avait très très bien accueilli mon discours d'installation à l'éducation nationale, et j'ai dit, bon, c'est très bien, vous êtes d'accord avec ce projet de réforme, mais je crois que c'est prématuré. Vous dites que vous êtes d'accord avec moi, mais est-ce que vous savez pourquoi vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, ce que je demande de ceux-là qui sont avec ce projet de réforme, c'est d'essayer chaque jour davantage de mieux se pénétrer des tenants, des aboutissants de ce programme de réforme avant de dire qu'ils sont pour cette réforme. De même que je demande un peu quand même de logique, un peu de sérieux, un peu d'honnêteté intellectuelle de la part de ceux-là qui veulent combattre ce projet. Parce que moi, je dis à tout le monde, je reste ouvert à la critique. Je n'ai pas la prétention de tout savoir et de pouvoir tout faire par moi-même. Je sais seulement d'expérience qu'il fallait venir avec ce projet de réforme. Je suis venu avec, mais je suis disposé aussi à discuter avec tout un chacun. Mais je dis cependant, si j'accepte toutes les critiques possibles, si je suis disposé aussi à revenir sur certaines choses, mais il y a un point sur lequel je ne reviendrai jamais, c'est admettre la suppression du créole que je viens d'introduire dans notre système d'enseignement. Ça, jamais, je ne reviendrai sur ce point-là.
Pour vous, il est fondamental.
Pour moi, il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre moyen d'aider la masse, la grande masse du pays, à sortir de son analphabétisme et à aider la masse aussi à s'orienter vers un projet de développement, un programme de projet de développement. On ne peut pas demander à un illettré, à quelqu'un qui ne sait pas lire, qui ne peut pas comprendre un message écrit, de participer valablement à un projet quelconque de développement. On peut toujours tromper ce monsieur, obtenir qu'il fasse ce que nous voulons, mais il ne fera jamais ce qu'il aurait souhaité faire lui-même. Or, après 176 ans d'indépendance, nous avons encore 85% d'analphabètes. Et ça explique le retard du développement de ce pays. Je ne rends pas seulement le français responsable de ce fait, de cette situation. Il y a d'autres facteurs, mais je crois que le français est un des facteurs les plus importants de ce retard dans le développement de ce pays.
Vous voulez dire le français utilisé comme il l'a été dans un système d'éducation où celui à qui était destiné ce système d'éducation ne parlait ni ne comprenait le français.
Vous avez bien dit utilisé, vous n'avez pas dit enseigné, M. Dominique, et je vous en suis gré, parce que ce que j'essaie de faire comprendre à nos professeurs, à nos élèves, à nos parents d'élèves, c'est que jusqu'à l'année dernière, en dehors de l'enseignement qui est dispensé dans certains jardins d'enfants, et vous savez qui fréquente ces jardins d'enfants, le français n'a jamais été enseigné chez nous. On a enseigné en français, on a enseigné par le français, mais le français n'a jamais été enseigné, et c'est ce qui explique que même nos universitaires ont tellement de lacunes dans leur formation, c'est que des fois ils arrivent sur un texte, ils ne comprennent pas, parce que ils n'ont pas appris.
Très bien. Monsieur le ministre, vous parliez des problèmes techniques confrontés cette année par les équipes chargées de cette pré-expérimentation et vous avez évoqué le matériel pédagogique. Qu'est-ce qui a été fait cette année pour que les mêmes écoles et les mêmes instituteurs puissent disposer à temps de ce matériel pédagogique et quel est ce matériel pédagogique?
Je vous dirais qu'à partir d'octobre prochain, il ne sera plus question de pré-expérimentation. Il sera plutôt question, cette fois-ci, d'expérimentation. Et qu'on ne travaillera plus au niveau de 100 salles de classe, mais plutôt au niveau de 400 salles de classe. Avec, comme pour la pré-expérimentation, 50 élèves par classe. Et toutes les dispositions sont prises maintenant. Si vous allez à notre imprimerie, vous verrez qu'on est en train de tourner. L'imprimerie tourne à plein rendement. Nous préparons le matériel pédagogique. Nous préparons le petit matériel de pré-apprentissage. Nous préparons le matériel d'enseignement du français oral. Parce que, et c'est là justement une des innovations de notre programme, on ne va plus mettre en première année une grammaire entre les mains de nos élèves, mais ils vont apprendre, comme cela se doit, le français oral, parce que le français, ce n'est pas notre langue, c'est notre seconde langue, si vous voulez, et comme tel, il y a une méthodologie, il y a une pédagogie attachée à l'enseignement d'une langue étrangère qui n'est pas forcément la pédagogie, la méthodologie de la langue maternelle. Donc, il y a ce matériel de pré-apprentissage, il y a un petit matériel de calcul qu'on met au point, il y a le livre d'enseignement de la lecture qui est un livre écrit en créole, Tijan Actipol, qui a été utilisé cette année en pré-expérimentation, qui est remanié maintenant, compte tenu des informations fournies par les instituteurs qui l'ont utilisé, par les encadreurs qui ont été sur place suivre le travail des instituteurs, et compte tenu de toutes ces remarques, de toutes ces informations. Donc, on est en train de mettre sur pied un matériel qui répond davantage aux conditions techniques que j'ai toujours préconisées dès mon arrivée à ce département. Je comprends très bien qu'au cours de la première année, ça n'a pas été possible parce qu'il a fallu aller vite pour faire quelque chose. Et maintenant, nous avons eu toute une année devant nous pour penser, pour réfléchir, pour rectifier l'aliment. Mais d'ici octobre prochain, le travail va se faire, va se dérouler dans des conditions presque optimales.
Vous avez eu cette année aussi la contribution d'un comité de curriculum qui a mis au point, disons, une série de signes de piste pour ce travail. Quels sont les résultats du travail du comité, monsieur le ministre?
Alors, je ne sais pas, monsieur Dominique, si vous êtes renseigné, ce comité de curriculum a été chargé officiellement de l'application pratique au niveau du primaire de ce projet de réforme. C'est-à-dire, il revient à ce comité de curriculum, qui est un comité technique, de rendre effective et l'exécution de ce projet de réforme. Donc, c'est à ce comité de curriculum de préparer tout ce qu'il faut, en fait, de matériel éducatif, d'expérimentation de ce matériel, d'évaluation de ce matériel, et ensuite de la multiplication de ce matériel quand le matériel a été éprouvé. Donc, le comité de curriculum s'adresse maintenant à la direction des études de l'Institut pédagogique national. La direction des études s'adresse maintenant au secrétaire d'État de l'Éducation nationale qui donne son feu vert pour l'impression de ces manuels après étude des différents rapports. Donc, je crois que ce comité de curriculum joue un rôle prépondérant dans l'exécution. D'abord, la préparation et l'exécution et le suivi de ce projet de réforme sur le terrain.
Êtes-vous satisfait de son travail?
Et dire que je suis satisfait à 100% des résultats du travail du comité de curriculum serait peut-être ne pas dire la vérité comme elle est. Parce que dans le sein de ce comité de curriculum, il existe, pour ainsi dire, certaines factions. Il y a des gens dans ce comité de curriculum qui sont entièrement, qui se sont entièrement adonnés à ce travail, qui ont compris les idées de la Secrétaire d'État de l'Éducation nationale, qui se sont donné pour tâche de faire entrer dans les faits ces idées. Il y a d'autres aussi qui ne sont pas tout à fait d'accord parce que et peut-être ils sont représentatifs à l'intérieur de ce comité, de secteur donné de la population. Mais je peux dire quand même qu'ils ont fait preuve d'une certaine honnêteté et que avant la rentrée d'octobre prochain, tout le comité finira par comprendre le bien fondé de cette réforme et s'adonnera très sérieusement au travail, se mettra très sérieusement au travail.
De 5000 élèves, nous allons passer cette année à 20 000 élèves qui seront concernés par la réforme de l'éducation nationale. Avez-vous les moyens matériels pour l'encadrement pédagogique, technique de ces 20 000 élèves? C'est un bond en avant que vous réalisez.
Oui, parce que justement, nous n'avons pas voulu, et ce n'aurait pas été possible non plus, de généraliser la première année de la réforme sans justement l'avoir expérimenté au préalable. Nous avons travaillé en pré-expérimentation sur 100 salles de classe. L'année prochaine, nous allons travailler sur 400 salles de classe. Mais tout au cours de cette année scolaire, de cette année académique 79-80, nous n'avons fait que la formation des cadres qui auront à superviser ce travail, la formation des enseignants de base qui auront à appliquer ce projet de réforme au niveau des salles de classe. Et pendant toutes ces vacances d'été, nous allons continuer à faire la même chose. Nous avons même cette semaine, en ce moment, à l'Institut pédagogique national, un cours spécial pour les professeurs d'école normale. Parce qu'il faut qu'à partir d'octobre prochain, ce programme tel que nous l'avions conçu puisse être enseigné au niveau de nos écoles normales qui vont devoir laisser les programmes archaïques traditionnels pour maintenant épouser les contours de la réforme actuelle de leur enseignement. Nous avons aussi à prendre en formation au cours de ces vacances d'été les 87 inspecteurs régionaux qui auront à superviser ces écoles dans leurs zones respectives. Nous avons également en ce moment deux représentants par centre pédagogique régional qui sont venus ici recevoir une formation. Et de retour à leur centre pédagogique respectif, ils vont reprendre en main le personnel de ce centre pour les mettre tout à fait dans le bain de la réforme pour qu'ils soient réellement en mesure, à la rentrée d'octobre prochain, de faire le travail comme nous le souhaitons.
Vous dites 400 salles. Est-ce que cette augmentation en quantité du nombre de salles couvertes à partir d'octobre prochain par la réforme et par l'expérimentation de la réforme comporte aussi une extension territoriale?
Bien sûr, parce que jusqu'à maintenant, l'expérimentation est circonscrite au niveau de Port-au-Prince, au niveau de l'Artibonite, au niveau du Nord et du Nord-Est. Mais en octobre prochain, nous allons aussi travailler au niveau de la Grand'Anse, au niveau du Sud-Est, au niveau du Nord-Ouest. Mais c'est pourquoi nous n'allons pas concentrer les salles de classe dans une aire géographique bien déterminée, parce qu'il nous faut quand même avoir des opinions venant de secteurs différents, parfois de secteurs opposés. C'est ainsi que j'ai toute une correspondance reçue des religieux, des religieuses qui demandent à expérimenter le programme, alors que au départ, nous ne les avions pas incluses du tout
dans ce programme.
Mais ces gens-là ont suivi la réforme de près. Ils ont suivi les séminaires de formation que nous organisons pour nos enseignants. Et ils sont, je dirais même, M. Dominique, beaucoup plus emballés pour la réforme que les Haïtiens eux-mêmes, parce que ces gens-là ont, sur le terrain, vécu les difficultés
de l'enseignement de base,
de base en Haïti, un enseignement dispensé en français.
Et ça se comprend, d'ailleurs, parce que leur enthousiasme et leur vocation les amenaient justement à apprécier cette réforme. Vous dites donc extension au niveau territorial, géographique.
Géographique, et dans toutes les zones où nous avons un CPR.
Un centre pédagogique régional.
Bon. Et en janvier dernier, nous avons ouvert deux nouveaux centres. Un centre à Fort-Liberté, un centre à Saint-Marc. Au cours de ces vacances, nous allons ouvrir un autre centre à Jarabel. Nous aurons un autre centre à Petit-Gouave, un autre centre du côté de la Savoie pour octobre prochain. Donc, cela va nous permettre justement de rayonner à travers les 9 départements géographiques, mais dans des secteurs bien déterminés de chacun de ces départements géographiques.
Est-ce que la réforme et cette extension n'impliquent que les écoles nouvellement construites en vertu du projet Banque mondiale gouvernement haïtien? Ou bien est-ce qu'elle déborde aussi sur les écoles traditionnelles, les autres écoles?
Pendant la période de pré-expérimentation, c'est les écoles du projet qui étaient les plus concernées. Encore qu'au niveau de Port-au-Prince, il n'existe pas d'école gouvernement haïtien ou Banque mondiale. Nous avons dû expérimenter au niveau de deux anciennes écoles. Et l'école République des États-Unis et l'école République du Venezuela en face de la cathédrale. Et mais à la rentrée d'octobre prochain, la réforme va concerner tous les types d'écoles, écoles publiques, écoles privées, nouvelles écoles, écoles de congrégantes, parce que nous voulons avoir des échantillons vraiment différents pour que, quand on analyse les résultats, ceux-là qui ont tendance à critiquer le projet de réforme, ils disent, mais c'est normal que vous ayez eu ce résultat parce que vous avez travaillé seulement dans ce secteur-là. Donc maintenant, nous travaillons dans tous les secteurs, urbains, ruraux, congréganisme, public, privé. Avec ça,
de façon à avoir un échantillonnage vraiment général. Vous avez tout à l'heure évoqué un petit problème,
celui de l'augmentation des salaires des instituteurs. Ensuite, au passage, vous avez parlé de l'extension territoriale des centres pédagogiques régionaux, ce qui m'amène, M. le ministre, à envisager une question un petit peu délicate. Est-ce que le budget de l'éducation nationale répond actuellement à ces projets plutôt ambitieux?
Actuellement, non, M. le ministre. Mais avant de présenter ce projet à ceux-là qui sont appelés à l'appliquer sur le terrain, j'ai eu des entretiens avec le président de la République qui m'a donné, en quelque sorte, son encouragement, qui m'a donné son feu vert, qui m'a ordonné même d'aller de l'avant et qui a passé des instructions au ministère des Finances pour qu'on essaye de me trouver les fonds nécessaires pour arriver à expérimenter valablement ce projet au niveau de ces 400 salles. Donc, je crois que naturellement, il n'y a rien qui dise que je vais obtenir l'intégralité de ce que j'ai demandé dans le projet de budget 80-81, mais je reste convaincu que avec l'intervention du président de la République, j'arrivais à obtenir, dans la mesure des moyens financiers du pays, à trouver quand même ce qu'il faut pour expérimenter la bonne.
On dit souvent que tant vaut l'éducation d'un peuple, tant vaut ce peuple, et tant vaut le projet de développement de ce peuple. Pourriez-vous, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, dire aux auditeurs de Radio Haïti votre conception d'une philosophie de l'éducation, résumée en quelques mots, car il serait bon que nous puissions un petit peu reposer sur des formules qui rentrent pédagogiquement très facilement dans l'esprit de l'individu moyen.
Monsieur Darnay, je vous dirais que peut-être il n'y a pas
de formule magique. Mais nous gros bon sens. Il y a un monde qui n'est pas comme lui, qui n'est pas comme écrit, pas capable de participer à 100% à un projet de développement quel qu'il soit. Un projet de développement suppose que l'individu concerné puisse sentir, puisse saisir, puisse comprendre ce qu'on est en train de faire pour améliorer son genre de vie et ce qu'on attend de lui en fait de collaboration. Parce qu'on ne peut pas, en somme, tout donner